Dans Vue de France ce matin, Lise, vous accueillez Sarah Barouk. Elle est écrivaine, auteure de 125 et des milliers, également militante féministe pour le documentaire Vivante de Claire Lejeune sur Canal+, qui lui est consacré, et l'appel aussi à la solidarité du 7 mars, tous unis. Je vous laisse le soin d'en discuter avec elle.
Sarah Barouk, bonjour.
Bonjour Lise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je voudrais qu'on commence par cet appel à la solidarité du 7 mars que vous avez lancé, Sarah Barouk. Appel à la solidarité entre toutes les femmes en marge de cette journée internationale des droits de la femme qui a lieu le 8 mars, donc vendredi prochain. Et vous, jeudi 7 à 16h30, vous avez donné rendez-vous au maximum à 16h30, place de la République à Paris, pour faire une photo symbolique. Expliquez-nous ce projet.
En fait, on a envie de représenter les femmes oubliées des associations féministes. Et vu qu'on est plutôt non violente, mais en même temps puissante, on avait envie de faire un visuel qui soit marquant et d'en prendre la photo diffusée le 8 mars à minuit, d'où la nécessité de se rassembler la veille. Et cette photo, en fait, on de l'œuvre d'une Mexicaine féministe qui avait exposé au sol des chaussures rouges, des chaussures de femmes et de jeunes filles, ce qui symbolise en fait la fin de leur marche vers la liberté, qui symbolise aussi leur course éperdue pour échapper à la violence et qui s'est malheureusement soldée dans la mort. Et ces chaussures qui sont abandonnées au sol pour symboliser le vide laissé par leur absence. Et évidemment, on en avait déjà parlé sur votre antenne. Moi, j'ai été extrêmement choquée de l'abandon des grandes associations féministes françaises, mais c'est exactement pareil en Belgique et ailleurs, telles que Nous Toutes et toutes celles que l'on connaît, qui n'ont jamais ni dénoncé ni condamné ce qui s'était passé le 7 octobre en Israël, mais pas que. Je lance d'ailleurs cet appel avec Mona Jafarian, qui est présidente de Femmes Azadies, qui est une exilée iranienne. Qui nous a permis de fédérer ce mouvement ensemble pour dénoncer en fait le non-soutien des féministes aux victimes de l'islam radical et de tous les systèmes gouvernementaux, théologiques, traditionnels dont les agresseurs dérangent ces mouvements-là. Donc il y a avec nous des Libanaises, des Afghanes, des Pakistanaises, des Iraniennes, mais également des médecins qui militent contre l'excision. En fait, toutes ces femmes dont on ne parle jamais et qui sont l'immense majorité des femmes qui souffrent parce que femmes. Et la différence est très très importante. Nous ne créons pas d'échelle de souffrance en fait. Une femme qui a été violée en Ukraine par l'armée russe souffre autant qu'une femme qui a été violée en Israël. Un viol est un viol. En revanche, pour mieux lutter contre les menaces, il faut les identifier clairement. Et il est très important pour nous d'identifier justement ces systèmes d'oppression qui visent la femme en tant que femme et non pas la femme parmi des civils, des citoyens qui auraient pu être touchés comme un homme aurait pu être touché ou un petit garçon aurait pu être touché.
Comment expliquer, Sarah Barouk, que ces associations féministes, elles n'ont pas comme but de combattre les ravages de l'islamisme radical alors que ça devrait être finalement leur premier ennemi?
Déjà, je pense qu'il y a clairement une question de financement. Il y a clairement une question d'adhésion. Moi-même, depuis que j'ai lancé cet appel, ce qui est quand même fou parce que moi, je suis issue d'une famille où il y a énormément de mixité. J'ai un père qui est tunisien. Je me fais traiter d'islamophobe, de suprémaciste blanche. Je suis lynchée sur les réseaux sociaux. Alors que quand même, je co-signe cet appel avec des Iraniennes, des Libanaises, des Pakistanaises, quoi. C'est oui. Quand même, c'est aberrant. Voilà. Donc, en fait, le problème, c'est que par peur d'être traitée d'islamophobe, elles le deviennent, parce qu'en réalité, ne pas s'insurger contre l'islam radical, c'est au contraire enfoncer les musulmans que trop de gens amalgament à ce courant. Et moi, ce que je réponds toujours, c'est ben l'islam radical, c'est pas une religion, c'est la politisation d'une religion, ça n'a rien à voir. Donc finalement, quand elles mettent tout ça dans le même panier, ce sont elles qui se discréditent.
Dans cet appel, vous parlez aussi du premier rapport public qui a été publié par l'ARCCI, dont on avait parlé sur notre antenne, l'Association of Rape Crisis Centers in Israel, qui donnait en fait des statistiques et un premier rapport public atterrant sur les crimes sexuels et le génocide commis le 7 octobre sur les femmes israéliennes. Vous avez l'impression que les gens ne veulent pas croire à la réalité de ce qui s'est passé en termes de violences sexuelles le 7 octobre, Sarah Baruch?
Preuve en est qu'on a eu besoin de ce rapport. Moi, quand j'ai contacté, et je les connais toutes, hein, les associations... Puisque ça fait quand même un bout de temps que j'œuvre maintenant à la défense des victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc je les ai toutes au moins croisées chez les ministres et dans les grands colloques. Lorsque je leur écrivais pour dire qu'il fallait absolument dénoncer ce qui se passait, mais fin octobre, début novembre, fin novembre, elles me disaient « mais on n'a pas de preuves ». C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de besoin de preuves, il y a des aveux. Tout a été filmé et revendiqué dans la fierté. Et qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Donc finalement, le fait qu'on ait eu besoin de ce rapport, c'est déjà pour moi un début de perversion. Maintenant, c'est très bien qu'il existe, et puis ça facilite, j'ai envie de dire, le travail pour les personnes qui, comme moi, dénoncent ce qui s'est passé.
Bien sûr. Alors parlons un petit peu, puisque vous avez une double actualité, Sarah Baruch, en ce moment. Il y a cet appel à la solidarité du 7 mars, tous unis, et il y a un documentaire de Claire Lejeune qui s'appelle Vivante et qui doit être diffusé demain sur Canal+. Racontez-nous un peu ce tournage et comment ça s'est passé, ce projet.
Elle s'appelle Claire Lejeune, pardon, je corrige.
Ah pardon, c'est moi, oui, Claire Lejeune, c'est de ma faute, désolée.
Oui, vous m'entendez?
Oui, on vous a perdu.
Non, vous entendez plus, Sarah, mais continuez. Maintenant, c'est bon.
Ouais. Ok. Donc, Claire Lejeune avait également réalisé un documentaire sur les femmes SDF qui avait donné lieu au film de fiction, ensuite Femmes Invisibles. Elle m'a suivie pendant un an dans les actions que je mène. L'objectif de ce documentaire qui s'appelle Vivante, c'est évidemment un documentaire de dénonciation des violences faites aux femmes, de la possibilité d'en apporter une meilleure compréhension, parce que pendant des années, on a dit aux femmes « il faut partir à la première gifle ». Or, lorsqu'on connaît un peu le sujet, c'est bien avant en réalité que le danger commence. Donc, on essaye de débunker, pardonnez-moi l'expression, les stéréotypes de la violence, les stéréotypes des victimes, puisque moi-même, je n'ai pas vraiment le profil de la victime type, et c'est ça qui est intéressant. Mais surtout, notre objectif, ce n'est pas dénoncer des reproches, des manquements de la justice, de la police, de l'État. Nous, c'est de trouver des solutions dont la société civile peut s'emparer, de mêler à ce problème les entreprises en leur montrant comment agir de manière très simple et montrer qu'en réalité, il y a des initiatives qu'on peut mener. Je vous donne un exemple très simple. Si l'entreprise ne pense pas à signaler à ses salariés qu'elles ont la possibilité d'aller porter plainte pour violence conjugale durant leur temps de travail, eh ben en fait, elles ne peuvent pas aller porter plainte, puisque tout simplement, chez elles, elles sont fliquées. Et il y a des tonnes de petites initiatives comme ça que l'on explique, que j'explique d'ailleurs lorsque j'interviens en entreprise, mais finalement, ne serait-ce que le fait de s'adresser aux entreprises, c'est quelque chose de très novateur. Or, 62% des femmes qui portent plainte sont salariées. Et parmi celles qui portent plainte, il y a les jeunes qui ne sont pas encore dans l'emploi et les retraités. Donc ça veut dire que parmi les femmes entre 25 et 60 ans, l'immense majorité est dans le monde du travail et dans l'entreprise. Donc si on n'agit pas dans cet endroit où elles passent en moyenne les deux tiers de leur temps, on se prive d'une immense capacité d'agir. Et en fait, on essaye dans ce documentaire, qui est une ode à la vie, de montrer qu'il y a plein de possibilités pour s'en sortir et surtout qu'une fois qu'on en sort, la vie peut être belle.
C'est vrai, alors ça c'est toujours votre force aussi Sarah, c'est à la fois de faire dans le coup de poing mais de donner des choses très pratiques. Par exemple, vous avez imaginé un sac de départ et vous montrez en fait qu'il qu'est-ce qui est nécessaire de mettre à l'intérieur, un petit sac de voyage si on a besoin de partir en urgence, et en même temps, toujours des exemples de femmes qui s'en sont sorties, qui vont bien et qui savent à quel point on a l'espoir d'une vie meilleure quand on décide de partir.
En fait, il faut rendre le projet concret. Ce qu'on a fait avec ce sac, c'était un sac symbole, mais n'importe qui peut le faire avec n'importe quel sac. C'était pour dire que on culpabilise toujours les femmes en leur disant « mais pourquoi vous restez ? Pourquoi vous n'êtes pas partie plus tôt ? Pourquoi ?» etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien de plus dur que de partir, et surtout, le moment du départ est le plus dangereux. Il cesse de l'être lorsqu'on est organisé et lorsqu'on part dans l'idée de ne plus revenir. D'aller vraiment opérer une coupure avec son agresseur. Et donc, ça signifie penser à tout un tas de choses dont on ne pourra pas se passer. Ça commence évidemment par tous les documents administratifs qui vont vous permettre de réinscrire des enfants dans une autre crèche, dans une autre école, de trouver un autre appartement, de revendiquer la propriété d'une voiture, d'un appartement, etc. Mais également tous les objets émotionnels, le doudou de votre enfant, son cahier de classe, le médaillon que votre maman vous a donné sur son lit de mort, enfin, tout un tas de choses en fait dont vous ne pouvez pas vous passer. Et finalement, c'est déjà rendre le projet extrêmement pratique, ça vous met en sécurité et ça rend la chose très concrète, c'est-à-dire que de la peur, on passe à l'action.
Et on voit bien justement, Sarah, que dans ce documentaire, votre but, c'est d'encourager à l'action, c'est de faire bouger les lignes, c'est d'impacter la société.
Exactement, et de donner espoir. Parce que lorsqu'on dit à des femmes que le monde est horrible, que la violence, elle est partout, que le patriarcat gagne, et que finalement, quand on s'en va, c'est la galère, bah sincèrement, elles restent chez elles. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était au contraire leur donner de l'espoir, leur dire que oui, il y aura un passage compliqué, mais qu'ensuite, la saveur de la liberté retrouvée, la saveur d'avoir dépassé sa peur, d'avoir affronté son agresseur et d'avoir conquis une vie indépendante, elle est inimitable et elle rend invincible.
Eh ben, bravo à Sarah Baruch, écrivaine, auteure de 125 et des milliers. Et donc, le 7 mars et dès demain, Vivante de Claire Lajeunie, que je prie de m'excuser pour l'avoir rebaptisée en début d'émission. Bonne journée à vous, Sarah, et colle à cavotte, comme on dit chez nous.
Merci. Alors, le 7 mars, venez avec vos chaussures, 16h30, place de la République. Voilà.